cours de philosophie de l'activité artistique par le père Philippe à Saint-Jeudat le 31 mai 1989.
Il y a profession, la messe est plus longue et je crois qu'elle commence avant, donc on termine le cours assez rapidement. Vous tapez à 20. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est plus l'heure. Alors, philosophie de l'art, on a fait très peu de cours là-dessus cette année-ci. Et la dernière fois, si vous vous souvenez, on avait vu la question du travail. En comprenant bien que le travail est l'expérience humaine la plus typique de l'homme. La morale existe pour les anges et le travail n'existe pas pour les anges. Mais c'est pour ça que de temps en temps, on a la flemme. Parce qu'on veut être angélique. Et ce n'est pas en ne travaillant pas qu'on est angélique. Parce que le démon travaille. Il a perdu sa contemplation. Comment se fait-il qu'il aime mieux être dans des petits cochons que de rester en lui-même? C'est très curieux, c'est évangile. Là, évidemment, on est en théologie. C'est vrai que le démon aime mieux habiter dans des petits cochons que de rester en lui-même. Aristote dit que celui qui mène une vie amorale ne peut plus rester seul. Il n'est pas heureux en lui-même, il est mal dans sa peau. Cette expression très significative, on est mal dans sa peau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans l'immanence de soi-même. On a besoin d'agir. Et les petits cochons sont une matière étonnante à cela. C'est pour ça que les démons aiment mieux habiter dans les petits cochons que de retourner en enfer. C'est leur ciel, les petits cochons. Tandis quand ils retournent en eux-mêmes, ils sont en enfer. Le démon n'aime plus. Et quand on n'aime plus, on n'est pas heureux en soi. On est heureux en soi que quand on aime. Et c'est pour ça qu'il aime mieux cette distraction. C'est une distraction d'aller travailler les petits cochons. Et on le voit bien du reste. Fameuse distraction. Parce que dès que les démons sont dans les petits cochons s'agitent avec une frénésie étonnante. Et ils aiment mieux dégringoler, ils se précipitent en bas de la falaise. Très étonnant, cet évangile qu'il faut relire de temps en temps. Il y a des tas de choses dans cet évangile. Le travail est propre à l'homme. L'expérience du travail montre la complexité et l'unité de l'homme. La complexité parce que le travail, surtout le travail artisanal, mais même le travail intellectuel. Le travail intellectuel, c'est quelque chose de très particulier. C'est très particulier le travail intellectuel. Et la peur qu'il y a quand on lit Saint Thomas, et qu'on essaie de comprendre Saint Thomas. C'est pas commode. Hein. Il faut beaucoup de courage. Comme il faut beaucoup de courage pour travailler manuellement. Le travail implique le courage, vous voyez. Et le travail implique toujours le conditionnement de l'homme. C'est dans le conditionnement de l'homme que le travail se situe. C'est pas l'intelligence contemplative. C'est l'intelligence qui résonne. L'intelligence incarnée. l'imagination liée à la sensibilité. Toujours. Ça peut aller très loin dans l'intelligence, et c'est toujours lié au conditionnement humain de l'imaginaire et du raisonnement. C'est pour ça que le travail est quelque chose de typiquement humain. C'est la complexité de l'homme et l'unité dans sa pénétration, dans le jugement qu'il a sur la réalité. Et en même temps, la complexité. Alors, il faut essayer de comprendre ce que représente le travail. Qu'est-ce que c'est que travailler ? Si on n'a pas l'expérience du travail, on ne peut pas savoir ce que c'est. Si on a l'expérience du travail, on sait ce que c'est. Mais on n'arrive pas toujours à l'analyser. Un travailleur manuel n'analyse pas ce que c'est que le travail. Il travaille. Et pour lui, c'est suffisant. Alors, on va essayer de s'approcher pour faire l'analyse philosophique du travail. Nous avons vu la dernière fois comment le travail, à l'intérieur de l'activité artistique, était, en quelque sorte, l'expérience dominante. Il y a une expérience beaucoup plus qualitative qui est l'inspiration. Mais l'inspiration est inséparable du travail. Et le travail est inséparable de l'homme qui se sert d'outils, qui se inséparable de la connaissance de la matière. Mais le travail est quelque chose de très typique. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail ? Mettre la main à la pâte. C'est ça le travail. Le travail implique toujours le point de vue du corps. Surtout le travail manuel. C'est pour ça que c'est fatigant de travailler. Et ça rectifie aussi, beaucoup. Ça purifie. Le travail a une force de purification et une force de, j'allais dire, d'unification. Quelqu'un qui ne travaille plus du tout risque toujours un peu de perdre la tête. Ça, c'est sûr. C'est déjà très habitué au travail intellectuel pour que le travail intellectuel purifie. Le travail intellectuel pur, hein, parce que le travail intellectuel de l'historien, de celui qui travaille au point de vue artistique, c'est un travail intellectuel, mais qui implique d'autres éléments. Tandis que le travail purement intellectuel du philosophe ne peut purifié et équilibré qu'au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, il équilibre et il purifie. Et il est nécessaire. Mais pas tout de suite. Oui, quelqu'un qui est habitué au travail artistique a de la peine à se mettre au travail intellectuel pur. Il ne peut le faire que progressivement. Il doit maintenir son travail manuel et artistique pour garder l'équilibre. Mais c'est l'équilibre de la vie monastique où il y a prière, contemplation, travail intellectuel et travail manuel. Ça, c'est un équilibre merveilleux. Regardez ça dans la règle de Saint-Benoît. Il ne faut pas regarder ça dans la règle de Saint-Dominique. Parce que justement, il fait ce transfert du travail manuel à un travail intellectuel. C'est le propre de la vie dominicaine, ça. Et c'était une véritable révolution de son temps. De faire des moines qui travaillent intellectuellement. Parce que ça ne va pas de soi. Ça ne peut se comprendre qu'à partir de la foi. Et ça ne se comprend pas au niveau monastique. Ça se comprend dans l'ordre de la foi. La une dimension nouvelle à la vie monastique. Et cette dimension nouvelle à la vie monastique ne s'est comprise que progressivement. Il a fallu 11 siècles pour comprendre ça. Quand même extraordinaire. Puisque autrement, la vie monastique impliquait toujours un travail manuel. Tandis que Saint-Dominique fait cette révolution. Je prends Saint-Dominique parce qu'il l'a fait beaucoup mieux que Saint-François. Saint-François ne comprend pas très bien ce que c'est que la théologie, que le travail intellectuel. Saint-Dominique le comprend très bien. Et c'est pour ça que Dieu lui a confié comme fils très cher, saint Thomas. Où nous sommes là vraiment en présence d'un travailleur étonnant intellectuellement. Et il faut comprendre ça quand on regarde le point de vue du travail. Et comprendre qu'il y aura de fait un travail manuel et un travail intellectuel. Et vous voyez, pendant la guerre, seuls les travailleurs manuels avaient une carte de travailleur. Les théologiens n'ont jamais eu la carte de travailleur. Et les philosophes non plus. Je me souviens, petite expérience qui m'a montré ça, c'est que à Fribourg, résistant pieusement autant que possible, mon office, allant voir celle que Geneviève de Gaulle avait amenée à Fribourg, qui provenait des camps de captivité. On allait régulièrement les voir. Sans faire attention, j'étais mordu par un gros chien, résistant l'office. Vous voyez, l'office ne nous met pas un bouclier contre les chiens avides de manger les hommes. Il m'avait dépassé, je n'avais pas fait attention à lui. Puis il s'est retourné. Il est un chien démoniaque. Il attaque des curés qui résident leur office. Tu aurais dit qu'il l'attaque. Il m'avait déchiré. J'étais avec ma chatte. Déchiré la chatte. Mordu, quand même. Alors je voyais quelqu'un qui regardait ça. C'était le jardinier du coin et qui avait le même patron que le chien. Et quand il m'a vu me dire oui, le patron il n'est pas très clérical. Je dis pas c'est qui. Mais il était PDG à la banque. Son chien, il va tout de suite dire, ne vous inquiétez pas, le chien est assuré. Donc, il faut tout de suite aller voir le patron pour que vous puissiez vous faire payer parce qu'il est assuré. Je dis oui, mais l'assurance n'enlève pas les méfaits. Alors, j'étais tout de suite à la banque pour voir ce que ça représentait. Un chien qui est assuré. Alors je dis, ça m'a fait perdre 2 heures. Je dis, oui, mais vous, votre travail, c'est un travail spéculatif, c'est un travail intellectuel. Ça ne se paie pas. Si vous étiez manuel, vous pourriez dire 2 heures. Et puis vous faire rembourser les 2 heures. Un travail intellectuel, ça ne se rembourse pas. Curieux, hein? Une société aussi intelligente que la nôtre ne reconnaît pas le travail intellectuel. On ne reconnaît que le travail manuel. Et pendant la guerre, c'était net. On n'avait pas de carte de travailleur. Carte de travailleur, c'était uniquement le travail manuel. Oui, c'est très très curieux, ça. Ça fait réfléchir comment seul le travail manuel est reconnu comme un travail. Le travail du philosophe, du professeur qui doit aller enseigner n'est pas reconnu. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît que le travail est lié au labeur, à la transformation de la matière. Tandis que si vous ne transformez rien, vous ne travaillez pas. Oui, ça, oui, mais je parle d'expérience. Ça met beaucoup de temps à changer. Ça met beaucoup de temps à changer. Puisqu'au fond, l'assurance d'un chien qui mord un professeur ou qui mord un... Vous voyez là tout de suite. Je ne sais pas si actuellement on reconnaîtrait le travail intellectuel par les assurances d'un chien. Et c'est là où ça rentre dans les mœurs. Parce que théoriquement, on dira, oui, on reconnaît le travail intellectuel, c'est sûr. On l'a toujours reconnu. On n'a jamais dit qu'un professeur de philosophie était un fainéant, parce que de fait, il ne traduit pas de ses mains. Mais je regarde l'assurance. Parce que c'est là où c'est intéressant. Oui, c'est là où c'est intéressant. Parce que c'est là où on reconnaît que 2 heures de perdu doivent être reconnues socialement. Le travail, qu'est-ce que c'est ? Je prends, en effet, je ne vais pas commencer à faire l'étude du travail par le travail intellectuel. Je regarde le travail manuel comme étant le travail type. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail type ? C'est l'homme qui transforme une matière. C'est l'homme qui réalise une œuvre. Or, le travail intellectuel de recherche doit réaliser une œuvre, un article. C'est vrai, ceux qui sont payés pour la recherche doivent, autant que possible, produire des articles. Et s'ils ne produisent pas des articles, on leur dit, vous n'avez rien fait. Vous avez travaillé peut-être, on reconnaît, mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien trouvé. Donc, le travail type reste le travail du manuel, de l'artisan. Et le travail, à ce moment-là, c'est vraiment la transformation de la matière. Transformer la matière en une œuvre pour réaliser quelque chose, l'œuvre. On réalise l'œuvre. Et c'est l'œuvre qui permet de mesurer le travail. C'est l'œuvre qui permet de mesurer le travail. Ce n'est pas le travail en lui-même. Pourquoi ? Parce que le travail, de fait, c'est une opération transitive, le travail manuel. Ce n'est pas premièrement une opération immanente. La réflexion du philosophe, c'est un travail, c'est une opération immanente. Je réfléchis. Écoutez un cours, vous grattez, il y a une opération transitive. Mais est-ce que vous allez ramener le fait d'écouter un cours qui est du travail ? On travaille quand on écoute un cours. On coopère avec celui qui fait le cours. Écouter un cours, c'est du travail. Est-ce que je mesure votre manière d'écouter à la manière dont vous avez sali du papier ? Vous avez gratté ? Non. Votre attention n'est pas mesurable. Tandis que vos notes, oui. Ah, j'ai bien gratté, j'ai bien travaillé ce cours. J'ai écrit 10 pages. Mais qu'est-ce que vous avez compris ? Ah, rien. Mais j'ai écrit 10 pages. Parce que quand je comprends, je m'arrête d'écrire. Je l'enregistre. Quand je ne comprends pas, j'écris en espérant un jour comprendre. Et puis, en écrivant, je maintiens mon attention. Si je n'écris pas, Je ne maintiens pas mon attention. S'il y a quelque chose de juste, vous écrivez pour mieux écouter. C'est vrai, vous écrivez pour mieux écouter. C'est donc ordonné à cette œuvre particulière qui se fait au plus intime de vous-même. Il y a une œuvre qui se fait quand vous écoutez et que vous comprenez. Vous êtes capable, pas tout de suite peut-être, de refaire le cours. Donc, vous avez progressivement saisi quelque chose qui vous permet de reproduire le cours, de refaire le cours, à votre manière du reste. Pas du tout d'une façon comme le magnétophone qui enregistre. Vous avez enregistré de façon intelligente. Vous avez enregistré selon vos capacités. Et dans la mesure où vous avez compris, vous vous êtes formé au-dedans de vous-même une idée, des concepts, des propositions qui vous permettent de dire et de le redire. Si vous n'avez rien compris du tout, mais vous avez dactylographié le cours pour être sûr de tout prendre, sans rien comprendre, vous avez fait l'œuvre d'un copiste. Donc, vous avez travaillé. Ça, je ne peux pas nier, vous avez travaillé. Mais vous avez travaillé à votre manière de copiste qui n'a rien compris. Vous avez peut-être fait de grosses bêtises en l'écoutant, parce que vous avez écouté tout en écrivant et quelquefois n'ayant pas compris, surtout s'il y avait des mots barbares, des mots philosophiques barbares que vous n'avez jamais entendus. Vous les avez transcrits à votre manière. Mais c'est ce qu'on dit pour Aristote, c'est des notes de cours des étudiants. Je ne crois pas du tout. Hein. Je ne crois pas du tout que c'est des notes de cours. Je crois que c'est des notes d'Aristote. Je ne crois pas que c'est des notes de cours d'étudiants. C'est des notes d'Aristote, c'est pas rédigé. Vous avez travaillé. Vous voyez donc, tout de suite, voyez la différence d'un travail manuel, d'un travail de copiste, d'un travail de celui qui écoute et qui essaie de comprendre, et puis d'un travail intellectuel. Vous avez votre autonomie de recherche. Donc, il y a des très grandes diversités. Il y a beaucoup de demeures dans le travail. Ça, il faudra y revenir au terme. Est-ce que surveiller un appareil, surveiller un plan, voir si tout va bien, si tout marche bien, si tout d'un coup il y a quelque chose qui s'évacue, un point lumineux qui indique que il y a quelque chose qui ne marche pas, est-ce que surveiller c'est du travail? Avoir l'œil. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est que du travail? Ou est-ce que vraiment le travail, c'est d'avoir gratté tout le cours sans rien comprendre? Premier prix de travail. Est-ce que c'est ça? Oui, au fond, c'est très complexe ce travail. Normalement, le travail est une chose humaine. Je crois que c'est ça qu'il faut d'abord tout de suite comprendre. Que c'est une chose humaine. Que le travail donc implique l'éveil de l'intelligence. Gratter sans rien comprendre, ce n'est pas un travail humain. Je reste, vous ne pourriez pas faire ça trop longtemps. Vous fatigueriez énormément. C'est comme le travail en série. On vous demande uniquement de faire un geste, sans réfléchir du tout. Si vous faites uniquement un geste sans réfléchir du tout, vous travaillez. Et votre travail n'est pas humain. Je crois que la première chose qu'on doit comprendre, c'est que l'expérience d'un vrai travail implique quelque chose d'humain. Le travail demande d'être humain. Le cheval, le bœuf, la machine, au sens strict, ne travaille pas, si ce n'est métaphoriquement. serait pas si mal de comprendre ça. Parce que vous dites, ah, il a beaucoup travaillé, cet animal, il a travaillé, il a besoin. Il a le droit d'avoir un peu de nourriture, parce qu'il a bien travaillé. Et la machine, elle a bien travaillé, a le droit d'être huilée, sa nourriture. D'être bien, bien époustée, parce que c'est comme ça qu'elle mange. Le travail est humain, mais attention. Est-ce que le travail est moral? Le Saint-Père, dans son encyclique sur le travail, dit qu'il faudrait inventer une nouvelle vertu, l'ardeur au travail. C'est très très joli de dire ça. On peut dire ça dans une encyclique. On ne peut pas le dire dans un cours de philosophie. Le travail engendre un habitus. Petit à petit. Un habitus d'habileté. Et pas de vertu. Alors j'ai distingué là tout de suite deux activités humaines. L'activité humaine du facere, réaliser quelque chose. Et l'activité humaine de l'agere. C'est une très vieille distinction. Elle est scolastique, mais elle est vraie. Il faut la maintenir. Le facere et l'agere. Ça c'est très important. Et l'homme se développe dans les deux. Ce sont deux activités presque jumelles. Je crois que l'homme serait un monstre s'il niait tout facere et ne serait que dans la durée. Il serait un monstre s'il ne regardait que la durée. Vous voyez, s'il ne regardait que le facere en niant la durée. Donc, il faut premièrement, après avoir vu que le travail dont nous parlons, je ne parle pas du travail métaphorique, parce que ça n'intéresse pas le philosophe. Tout ce qui est métaphorique intéresse le poète, mais n'intéresse pas le philosophe. C'est métaphorique. Donc, ça ne me donnera rien sur ce que c'est que le travail. Le travail reste une activité humaine. Une activité humaine ordonnée à l'œuvre. Mais c'est cela qui fait comprendre que l'encyclique du pape sur le travail n'est pas un travail philosophique. Puisque le pape ne regarde pas l'œuvre. Si vous regardez attentivement, c'est uniquement comme pape soucieux de maintenir un travail humain comme condition sine qua non, mais ne dit pas ce que c'est que le travail dans son encyclique. C'est pour ça que ça demande d'être complété par un cours de philosophie. Je ne peux pas vous dire, lisez l'encyclique du pape et vous saurez ce que c'est que le travail. Pas du tout. Il montre qu'il y a une erreur commune chez les marxistes et dans le libéralisme. Dans le capitalisme libéral. Quelle erreur commune. Des deux côtés, on oublie l'homme. On met entre parenthèses l'homme. Mais il ne me dit pas ce que c'est que le travail. Tandis qu'au plan philosophique, je dois tout de suite comprendre que le travail est finalisé par l'œuvre. C'est la fin. Le facere n'a de sens que par l'œuvre. Je fais un travail en vue de telle œuvre. Tandis qu'au contraire, l'agere n'a pas d'œuvre. Au sens strict, l'agere demeure dans l'immanence. C'est pour ça que l'agere pur risque toujours de se pervertir. Il a besoin dans la vie commune. La vie commune impliquera du facere et de la durée. Une vie commune qui ne serait que de l'agere, uniquement immanente, ce serait plus une vie commune. comme une, c'est écouter en commun des cours. Il y a quelque chose qui se fait quand même. Il y a un cours qui se fait. Et le cours a comme fin une œuvre. Que ceux qui écoutent puissent vraiment éduquer leur intelligence. Donc il y a quand même du fatuéré. Il n'y a pas que de l'adjéré dans un cours. Il y a du fatuéré. L'éducation implique une œuvre commune, implique une vie commune. Pas d'éducation sans vie commune. C'est au moins l'éducateur et un seul qui est éduqué. Il y a au moins deux. Et il y a l'œuvre d'éduquer, donc de faire quelque chose. Une éducation qui resterait uniquement dans l'adjéré pur ne serait pas d'éducation. Il y a du fatuéré. Il y a une œuvre artistique. Donc, comprenons bien la distinction très importante entre ces deux activités humaines. Une qui est ordonnée à l'œuvre, donc le fatuéré, le travail. Le travail humain implique l'œuvre. Un travail qui n'aboutit pas à une œuvre, n'est plus du travail. L'œuvre peut être réussie ou pas réussie, hein. Ça c'est autre chose. Peut-être réussie ou pas réussie, ça c'est évident, ça peut être complètement raté. Ça peut être monstrueux, c'est quand même une œuvre. Et c'est suffisant pour que le travail soit un travail humain. Le travail n'est un travail humain que s'il aboutit à une œuvre. Autrement, il n'a pas de finalité. Oui, l'ascèse, au plan éducatif, est-ce qu'elle implique un travail? Oui, l'ascèse, c'est du travail. Travail volontaire. Et elle implique une œuvre. Ça, c'est sûr. L'ascèse de manger moins. C'est une ascèse. J'ai grande envie de manger beaucoup aujourd'hui. Ben, je dis non, je vais être assez éticulé. Je vais manger très peu. Ben, vous mangez peu, pourquoi? Pour maigrir. Si vous êtes un petit tonneau, il faut maigrir. Et si le médecin vous dit attention à votre cœur, c'est dangereux, il faut maigrir. Donc l'ascèse consiste à maigrir. C'est une œuvre, maigrir. Il y a un résultat tangible. Oui. Donc là, il y a quand même une œuvre visible sur le corps. La cèse est une œuvre sur le corps. Vous taillez le corps. La cèse de ne pas parler, c'est encore une œuvre. Puisque parler, on l'a dit tout à l'heure, hein, la voix, la parole, c'est la perfection de l'individu. On aime bien de parler. La perfection de l'individu. Et donc la voix perfectionne l'individu et permet de communiquer à un autre. Donc c'est quand même quelque chose. Alors la cesse dira, il faut se taire. Des moments de silence. Donc on supprimera cette œuvre particulière qui est la parole. On l'arrêtera pour un but, un amour plus élevé. Pour une intériorité plus grande. Donc vous voyez, l'œuvre est toujours nécessaire au travail. Et l'œuvre va donner au travail sa signification propre. Puisque ça finalise le travail. Donc la signification du travail vient de l'œuvre qui finalise. C'est la première chose qu'on doit voir, ça. Le travail est ordonné à une œuvre. Donc, le travail réclame l'efficacité. Un travail qui n'est pas efficace ne produit pas d'œuvre. Et la philosophie de l'efficacité, elle se fait à l'égard du travail. C'est le travail seul qui me permet de comprendre ce que c'est que l'efficacité. Et l'efficacité, elle se réalise dans l'œuvre. L'œuvre, un travail efficace a une œuvre. Un travail non efficace, un travail de dilettante, mais la corruption du travail, le dilettante, il touche à tout. Ben celui qui touche à tout, il n'y a jamais rien qui se produit. Donc à ce moment-là, il y a corruption du travail. Un manque d'efficacité. Vous voyez, c'est très important pour nous de voir à quel moment de la philosophie on étudie l'efficacité. Parce que d'habitude, quand on regarde la durée, on regarde le grand ennemi de la durée. C'est l'efficacité. La corruption de la durée provient de l'efficacité, puisque la durée n'a pas d'œuvre. Et l'efficacité cherche une œuvre. Donc il y a une espèce, c'est très cru, il y a une espèce de rivalité entre les deux. Hein. Et que nous portons en nous ça. Et le drame intérieur, le premier drame intérieur, c'est l'équilibre entre l'efficacité et la finalité pure de l'amour. La durée, c'est l'amour. L'amour spirituel. Et l'amour spirituel n'a pas d'autre finalité que lui-même. Et donc la rivalité première va être entre l'amour et l'efficacité que nous portons en nous. Il y a une efficacité bonne, il y a une efficacité perverse. Et l'efficacité perverse, c'est quand l'amour devient rival. Non, je veux dire, c'est quand l'efficacité devient rival de l'amour. Parce que l'amour ne peut jamais être rival de l'efficacité. Quand c'est un véritable amour, quand vous aimez l'autre d'un amour d'amitié véritable, non pas de jouissance, mais d'un amour d'amitié véritable, vous désirez que l'ami soit parfaitement ce qu'il doit être, comme homme, et donc qu'il puisse avoir une certaine efficacité. S'il ne peut pas avoir une certaine efficacité, comme homme, il diminuera. Il sera plus ce qu'il doit être. Puisque tout homme doit avoir une certaine zone d'efficacité dans son travail. Un homme qui n'a plus aucune efficacité dans son travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Mais même au noviciat, évidemment, au noviciat, la 16 augmentant, la 16 a une efficacité purement immanente, on ne voit pas très bien. Évidemment, il y a la pesée. Vous avez maigri au noviciat de 10 kilos. Très bien. Ce n'est pas le but aussi. La vie n'est pas faite pour ça. C'est extrinsèque. On ne vous dira pas au noviciat, tous, on doit maigrir de 10 kilos. On pourrait se comprendre si on ne recevait que des petits tonneaux. Alors, le noviciat serait une cure d'amaigrissement. La finalité serait une. Mais le noviciat n'est pas une cure d'amaigrissement comme finalité. C'est premièrement apprendre à aimer. C'est premièrement ça. Apprendre à aimer. Aimer Dieu, aimer Jésus, aimer le prochain. Pour cela, apprendre à aimer, c'est se quitter. C'est se dépasser. D'où la 16, contre l'égocentrisme. L'égocentrisme qui doit être diminué. Donc, le travail va impliquer toute une philosophie de l'efficacité. On essaiera de comprendre qu'est-ce qui permet au travail d'être efficace. Mais ce n'est pas encore le travail, ça. Qu'est-ce qui permet au travail d'être efficace? Je crois qu'il n'y a pas de travail vrai sans efficacité. Donc, il faut regarder les conditions sine qua non qui permettent au travail d'être efficace. Alors, qu'est-ce qui permet au travail d'être efficace? C'est l'heure. Donc, il faut arrêter l'heure. Il faut arrêter. réfléchissez à ça.